Les Alouettes affrontent les champions de la Coupe Grey, les Argonauts de Toronto, dans le premier match d'une série aller-retour. L'équipe de Jim Popp et Mark Trestman connaît une des pires saisons de l'histoire par un champion en titre et est en train de freiner une série de 7 revers. Chez les Alouettes, c'est sans les vétérans Patrick Lavoie, Philip Blake et Chris Hockey que la saison va se terminer. C'est une lutte pour quitter le dernier rang en direct de Toronto au réseau Cogeco.
Le football des Alouettes. Au réseau Cogeco, c'est le football des Alouettes de Montréal. Retrouvons à la description Jean Saint-Onge et à l'analyse Steve Charbonneau.
Bon après-midi, mesdames et messieurs. Bienvenue au superbe BMO Field en bordure du lac, ici à Toronto, pour ce match entre les Alouettes et les Argonauts de Toronto. Steve Charbonneau, bienvenue au pré-camp de 2019.
C'est vraiment ça, hein, Jean, pour vrai. On regarde où se situent les deux équipes dans la Ligue. Et les deux, ça sont 3 victoires, 12 défaites. C'est pas mal similaire comme fiasco d'un côté comme de l'autre.
Imaginez une équipe entre les deux qui a gagné la Coupe Grey l'année dernière. Et,
c'est ça la différence.
Et certains disent que le poste de Mark Trestman et de Jim Popp serait peut-être même déjà en danger.
Ben moi, j'y crois. Puis même que Trestman, avec le CV qu'il a, tu sais... Il a tellement connu de victoires partout où il est allé. Il a réussi de grandes choses. Il arrive ici. Et peut-être que sa magie, c'est évidemment, ne fonctionne plus ici à Toronto. Et probablement que ce serait lui qui partirait de son propre gré parce que, évidemment, s'il ne semble pas être capable de revirer ou virer ça de côté, là, changer, dirons, le gros bateau de bord, ben, je pense qu'il va partir de lui-même. Là.
Quand on regarde la formation des Argonauts de Toronto, ce qu'on note, c'est qu'il y a la moitié d'une équipe sur la liste des blessés. Présentement, il y a 22 joueurs sur la liste des blessés. C'est certain que ça complique les choses et ça s'est compliqué dès la deuxième de la semaine de la saison quand Ricky Ray a subi une blessure qui a mis fin à sa saison et peut-être à sa carrière. Ça serait un petit peu à la manière d'Anthony Calvillo, c'est-à-dire qu'il se blesse sur le terrain et ne remet plus les pieds sur le terrain à titre de joueur. Ça serait pas impossible.
Ça serait pas impossible. C'est malheureux parce que, évidemment, Ricky Ray, bon, c'est un bon joueur. Puis on a quand même construit ici. Trestman a bâti l'équipe autour de lui. Et là, on se rend compte l'impact que peut avoir un joueur comme Ricky Ray dans une équipe. Et surtout, un bon carrière qui est capable de bien distribuer le ballon. Ils n'ont pas connu ça suite à la blessure de Ricky Ray.
Parce que celui qu'on va voir cet après-midi, c'est celui qui a hérité du poste quand Ray s'est blessé, James Franklin. Il a travaillé pendant 4 matchs avant de céder sa place à McLeod Bethel-Thompson. Bref, on cherche depuis ce temps. Un peu comme les Alouettes, la seule différence, c'est qu'ils n'en ont pas passé 6, ils en ont passé 2. Parlons-en des Alouettes. Depuis la dernière fois qu'on s'est parlé, d'autres changements alors qu'on a travaillé à rajeunir l'équipe en laissant partir des vétérans. Il y avait déjà eu Tyrell Sutton, mais là, il y a Philip Blake, il y a Patrick Lavoie et Chris Hockey qui sont partis. Oui, ça sert à rajeunir l'équipe puisqu'on est allé chercher un jeune receveur de passe, Josh Stanford, et des joueurs pêchage. Mais moi, ce que ça me disait surtout, c'est que j'ai l'impression que Kavis Reid est solidement en poste parce que je crois pas qu'on l'aurait laissé prendre ces décisions-là si on avait l'intention de le remplacer.
Ben c'est clair. À la lueur de ça, c'est qu'il y a eu un vote de confiance parce que tu bâtis pas pour 2019 en faisant des moves, disons, assez gutsy, là, vers la fin de la saison comme ça pour se débarrasser des gars qui étaient quand même Lavoie et Hockey, évidemment. Hockey, c'était, je pense, qu'à ce moment-là, le 10 octobre, lors de la transaction, je pense qu'il était quatrième dans la Ligue, dans les plaqués à le défensif.
Il n'a que 26 ans.
En plus.
C'est un joueur canadien, ce qu'on appelle un ratio buster, parce que c'est un gars qui joue à une position qui, très souvent, ce sont des Américains. Et là, un joueur canadien qui joue là, ben, ça t'aide à respecter le ratio match après match. Du côté des Alouettes, on nous a dit qu'on ne s'attendait pas d'être en mesure de lui faire signer un nouveau contrat. L'année dernière, une prolongation, il a accepté une prolongation de seulement un an, veut tenter sa chance dans la NFL, et plutôt que de le perdre pour rien, on a dit on va au moins aller chercher un joueur pêchage pour lui. Dans le cas de Patrick Lavoie, on lui fait peut-être une forme de faveur en lui permettant d'aller chercher un chèque en éliminatoire de plus, et il redevient joueur autonome en février, donc si la situation s'y prête, il pourrait revenir. Sauf que le message que ça envoie, c'est vraiment une vente de feu, on vide l'équipe.
Ben, disons qu'on essaie de solidifier des bases pour le camp d'entraînement 2019. On sait que hors saison, il va y avoir encore beaucoup de mouvements. Supposons qu'on prend pour acquis que Kevin Sweet reste en poste. Si Mike Sherman est encore là, et probablement qu'il va y avoir quelques changements au niveau des positions d'entraîneur, mais à la base, on a un carrière en Menzel qui, selon moi, va être de retour et qui va avoir tout le camp d'entraînement pour se préparer convenablement.
Et on a une option avec Antonio Pipkin qui a montré qu'il pouvait peut-être se tirer d'affaire.
Exactement, tu as raison. Et deux jeunes avec qui on peut bâtir pour 2019. Donc, je dirais que le problème, c'était à l'attaque. Tu seras sûrement d'accord avec moi. Le problème cette année, c'était pas nécessairement à la défensive. Il y a quelques ajustements à faire, mais on joue du bon football. Et Mwamba en plein centre, c'est un gros pilier qui va revenir, évidemment. Puis, disons qu'il va, je dirais, avoir le rôle de leader qu'il a pris quand même cette année. Et parce qu'on sait que à la défensive, on réagit plus. Et à l'attaque, ben évidemment, c'est plus des formations. On est un petit peu plus... faut venir un peu plus préparé, disons, qu'à la défensive. Et là, si on peut se préparer autour de Menzel, au niveau de l'attaque, et peut-être créer un système de jeu qui va vraiment l'accommoder, lui, pour son style de jeu. Mais évidemment, si moi, je suis Menzel, et je m'assois cet hiver, je veux une ligne à l'attaque qui est capable de me protéger.
Et le départ de Philip Blake, ce n'est peut-être pas en raison de son rendement. C'est probablement pas en raison de son rendement. Il a rendu de grands services aux Alouettes. Oui. Mais il est dans la trentaine. Et du côté des Alouettes, ben, on a des jeunes joueurs de ligne. Deux sont sur la liste des blessés, Trey Rutherford et Tyler Johnstone. Ils sont deux premiers choix. Il y a Zach Hannon qui fait son entrée dans la formation, qui était un autre choix des Alouettes. Bref, on veut donner la chance aux jeunes sur la ligne à l'attaque. C'est le message que ça semble envoyer.
Et on n'a pas le choix. Et selon moi, l'autre point, ce serait au niveau des receveurs. On a besoin de talent. Parce qu'à un moment donné, tu as deux façons de voir ça. Tu peux penser qu'un gars a du talent puis qu'il a tout simplement un manque d'exécution. Mais après, après un certain temps, si l'exécution n'est plus là, ça se peut-tu que ton joueur soit pas aussi bon que tu pensais?
Il n'y a pas autant de talent et qu'il ne sera jamais capable de réaliser cette exécution.
Ben voilà. Tu sais, on a quand même B.J. Cunningham là, qui est sur la touche. Évidemment, il est blessé. Mais c'est un receveur qui a fait du bon travail pour Montréal. C'est plus Lewis, Jackson. Bowman est arrivé plus tard. On est quand même une belle surprise. Mais il va falloir trouver de la vitesse. Il va falloir que ces gars-là réussissent à attraper des ballons pour pouvoir aider l'attaque. Parce que là, et on revient juste un petit peu sur la voix. Moi, je l'aimais bien. Les partisans l'aimaient bien. C'est un gars qui était fort sur les unités spéciales et tout ça. Là où je pense que Pat Lavoie devait travailler un petit peu plus, c'est pour bloquer. On amène un Pat Lavoie pour aider la ligne à l'attaque, pour bloquer en étant un sixième bloqueur. Tu dois être capable de bloquer un secondaire ou un demi-coin qui s'en vient sur un blitz. Tu es plus gros que lui. Et je trouve que dernièrement, on avait un petit peu de difficulté. Donc, c'est sûrement pas à cause de la performance à Pat Lavoie. Je pense qu'on aurait pu travailler avec lui. Mais c'est un gars qui va nous manquer ici. Mais il faut absolument réussir à bloquer, à trouver une façon de bloquer ces blitz-là. D'un, les repérer comme il faut, ça prend un centre qui est là et qui est capable d'aider, parce qu'on sait que Luc Brodeur-Jourdain était vraiment le pilier de la ligne à l'attaque. On l'a évidemment laissé ses lignes de côté cette année, sauf à part deux semaines. Ça prend un peu plus de leadership et de stabilité sur la ligne à l'attaque. Il faut donner le temps au carrière de connecter avec ses receveurs.
Vous comprendrez qu'on est déjà en période de bilan, même s'il reste deux autres matchs aux Alouettes d'ici la fin de la saison. Et on a amorcé ce bilan hier en compagnie du directeur général des Alouettes, Kevis Reed. On lui a posé plusieurs questions et on l'a laissé nous vendre ce qui était son plan pour les Alouettes. Donc, on vous présente Kevis Reed, le directeur gérant des Alouettes.
Kevis Reed, people are disappointed with the record of the Alouettes this year. But I imagine nobody's more disappointed than you, the coaching staff, and the players. What would you say is the biggest source of disappointment on your side?
You know, we felt coming into the season we had the pieces, the coaching staff, the players, now the overall locker room vibe to be a very competitive football team. albeit most of the games were competitive, the results were not what we wanted. And we were sometimes our own worst enemy, and that was extremely frustrating. It was extremely disappointing at times to see that we performed very well and made marked improvements as the season progressed, but never were able to get over the finish line and finish games as we expected to do. So it's been a very frustrating season, but very happy that a lot of things that we felt that we needed to accomplish, we needed to get in place to be a successful franchise and give our long-suffering fans something to cheer about, give our fans something to really grab hold of and say the Montreal Alouettes, once they really get it going, are going to be a franchise that's going to be competing year in, year out.
Ça a été une saison extrêmement frustrante parce qu'on pensait qu'on avait le personnel en place et l'attitude pour avoir plus de succès. Et même si on a été dans les matchs, des matchs serrés en début de saison, on n'a pas eu les résultats qu'on voulait. How would you compare the QB situation at this point if you compare it to last year?
Yeah, you know, that's one of the things that I'm pleased about. I felt very strongly coming into the season about Matt Schultz. We were expecting Antonio to compete better in training camp, but that didn't happen. But he had a second opportunity, and he proved why we made the trade for him and why the expectations were there. We had another young man, Mr. Fugate, that we had high expectations for. It didn't work out. However, having the injuries that we had, we were able to discover Jeff Matthews that we feel very strongly about. The injuries prompted us to make the trade for Johnny Manziel that we feel has a very high ceiling. And then reacquiring Vernon Adams in free agency, that was very important for us. Now I feel very strongly that there are five opportunities for the team to select three or four quarterbacks moving forward. That was a big piece of the equation. We saw what good quarterback play has done for this franchise in the intermittent spurts that we had success with Antonio Pipkin, the four-game streak that he had there. Then we see continual progress by Johnny Manziel. So I feel extremely confident the quarterback situation, once we establish who that person is going to be one that is solid for years to come.
La situation des carrières, ça a été difficile cette année en début de saison parce que peut-être que Antonio Pipkin notamment n'a pas performé au camp d'entraînement comme on s'y attendait. Matthew Schultz, lui, a donné des signes intéressants, mais il a été blessé. La situation des blessés, justement, chez les carrières a forcé la transaction pour Johnny Manziel. Et Manziel progresse bien, si bien que l'année prochaine, on va se retrouver, même lors des trois prochains matchs, avec quatre ou cinq carrières. Il a nommé également Jeff Matthews, qui a été intéressant quand il s'est amené. Bref, on a maintenant des options au poste de quart. What is your biggest source of optimism?
Coming into this job, I said that we needed to do three things right away. Number one was to reestablish our Canadian content, our national content, not only in numbers, but in depth. Strategically said that early we were going to, in free agency, get some of the pieces, but the draft had to be our avenue to building this the right way. I'm very proud of the fact that we have 12 of our draft picks on the rosters, and they're gaining a valuable experience, and they're contributing. Mr. Poulin, to have Bo Banner, to have Zach Gannon now on the roster, to have Ty Cranston after he's gone back from Ottawa U. 12 of the guys over the draft picks in the last 2 years are getting good experience to have another year or two on their contracts. So we know that the centerpiece of our nationals are there. So very pleased about that, the quarterback position. We've been long-suffering to find the quarterback. I feel now, as I said earlier, that we have stabilized that, and we have a number of options that we can choose from. And lastly, I'm very proud that we did not essentially step outside of our framework of getting younger. We were at the point last year where we had over 20 players over 30, and we made a concerted effort and a strategic effort to say that we couldn't do it all at one time because we were attempting to win. And we felt that those veterans had value not only in the locker room but on the playing field. But this year we cut our roster down. We have half of that. And next year you can project that probably three or four guys are only going to be over 30, which is that sweet spot for a football team.
Donc, si j'y vais à l'inverse en commençant par la fin, c'est-à-dire l'équipe s'est beaucoup rajeunie cette année. L'année dernière, il y avait près de 20 joueurs de plus de 30 ans et on ne pouvait pas changer ça drastiquement
d'un seul coup parce qu'on voulait compétitionner, avoir une chance de participer au match éliminatoire. La situation des quarts arrière, il en a parlé plus tôt, et un des objectifs était également d'améliorer le contenu canadien. Il y a présentement 12 joueurs des deux derniers repêchages qui obtiennent de l'expérience lentement mais sûrement et qui seront là probablement pour plusieurs années.
Donc, le plan en trois sections, Steve Charbonneau, le talent canadien, rajeunir l'équipe et rétablir une profondeur au poste de quart arrière et se trouver un quart arrière, dans le fond. Il semble assez satisfait, toi. Est-ce que tu l'es autant?
Ben, le contenu canadien, je ne vais pas en débattre parce que moi, ce que j'aime voir, c'est du contenu canadien. Oui, dans une équipe, on n'a pas le choix. Ça en prend. C'est les règles de la Ligue. Ça prend des Canadiens d'impact, mais je pense que ça prend aussi pour remettre des gens dans les estrades, ça prend, faut être capable de connecter aussi avec des Canadiens qui sont de chez nous. Et ça, ben, je trouve qu'il n'y en a pas tant. Et on vient, et Lavoie...
Même si on a une chance de revoir Patrick Lavoie en février, ouais. Ça n'envoie pas un très bon message quand on l'envoie à Regina.
Non, exactement. Donc, moi, je pense que sur ce côté-là, il faut continuer à essayer de ramener, parce qu'on a toujours, et je vais être un grand défenseur du fait qu'on doit avoir un produit local francophone pour connecter dans la communauté, parce qu'un anglophone qui va dans les écoles qui sont strictement en français, c'est difficile pour un jeune de s'identifier à un joueur qui est purement anglais. Là.
Et moi, en tant que membre des médias, Christian Matt d'un côté et Nok Mwamba de l'autre côté, ils vont pas mal cette année de me voir, oui. Puisque ce sont les deux francophones qui jouent régulièrement sur le terrain.
Et on l'a vécu à l'époque, là, quand on a relancé un petit peu les Alouettes, là, Bruno Eppel, Vercheval, Vercheval était venu après, mais Sutherland, Jock Climey, on avait des francophones dans la communauté, on n'avait pas eu le choix. Mais quand tu fais 200 apparitions dans l'année, à un moment donné, ben il faut laisser la place à quelqu'un d'autre qui parle aussi la même langue que toi. Donc, et pour au niveau des jeunes joueurs, ben c'est sûr que l'année passée, on en parlait. Je me souviens, on était au micro, on disait que ça avait pas de sens que l'équipe était aussi vieille.
Et sans obtenir de succès, c'est une équipe qui gagne, c'est une chose. Mais si tu veux rebâtir, c'est pas avec l'âge d'or que tu rebâtis.
Exactement. Moi, je pense qu'à ce niveau-là, je suis d'accord avec lui. Établir une profondeur au niveau des carrières, ben en fait, moi, je vais te dire, celui qui est partant aujourd'hui en Menzel, il a pas gagné un match encore pour les Alouettes. Et il a quand même bien fait la semaine passée, 250 verges ou à peu près. Zéro touché. Et le corps arrière, dont on n'est pas satisfait des performances ici à Toronto, c'est...
Bethel Thompson?
Franklin a eu des meilleures statistiques la semaine passée. On est quand même pas trop certain de ce gars-là. Il a ramassé 292 verges par la passe et 44 verges au sol. Contre Hamilton. Et ici, on n'est pas satisfait de ça. Et à Montréal, on est satisfait des performances de Menzel et on voit en lui un grand carrière. Moi, je suis encore très sceptique. Et les gars qu'il a nommés après Menzel, Pipkin, j'ai aimé, c'est un très jeune par contre, mais j'ai aimé ses performances quand même, à part un match qui a été catastrophique. Mais Matthew Shields, Junior Adams, à suivre.
On les a pas suffisamment vus.
Il y a eu trop de... on parlait du tourniquet, là, les portes tournantes au niveau du poste de carrière. Donc, je pense que c'est, encore une fois, c'est là qu'il faut voir ça. Et puis, on n'a pas le choix. Imagines-tu la pression de Menzel? Il vient ici à Toronto contre la pire défensive de la Ligue. S'il sort pas d'ici avec une victoire, on s'en reparlera de savoir ça va être qui le carrière en 2019.
Et est-ce qu'on verra éventuellement d'autres carrières d'ici la fin de la saison ou si Menzel est en place jusqu'à la fin de la saison, les trois derniers matchs, pour qu'il continue de progresser. Prendre un virage jeunesse, ça veut dire qu'il y a des gars qui s'approchent du terrain. Avec le départ de Chris Hackey, il y a le secondaire Jean-Gabriel Poulin, qui est un joueur pêchage cette année, qui joue sur les unités spéciales depuis le début de la saison, qui devrait obtenir un peu de temps de jeu comme secondaire, même si celui qui prend la place de Chris Hackey, c'est l'Américain Glenn Love. Love qui, depuis le début de la saison, se distingue, depuis qu'il est arrivé, se distingue sur les unités spéciales. C'est lui qui a le plus de plaqués sur les unités spéciales. Il sera le partant, mais qui sait peut-être que éventuellement Jean-Gabriel Poulin pourra prendre la place d'un Chris Hackey. Nous l'avons rencontré après un entraînement cette semaine.
C'est un peu le sujet de la semaine avec les transactions qu'il y a eu. Est-ce que vous sentez que l'équipe, justement, a pris un virage jeunesse?
Je ne sais pas si on essaie de prendre un virage jeunesse. Je pense qu'il essaie de faire des moves pour le futur. Puis c'est, je sais, c'est pas vraiment mon travail d'essayer de penser pour le GM puis le monde en haut, mais j'ai confiance qu'ils font les bons moves puis qu'ils ont pensé à tout ce qu'ils font. Puis nous, notre travail, c'est de s'améliorer comme joueurs de football puis s'améliorer comme équipe. Donc on n'a pas vraiment le temps de penser à tout ça puis on focus sur ce qu'on a à faire sur le terrain.
Un secondaire de moins avec Chris qui est parti. Est-ce que justement, en tant que secondaire de première année, tu penses, est-ce que je vais finalement avoir quelques jeux défensifs de plus?
Pour moi, ça change pas grand-chose dans ma préparation semaine en semaine. Je m'assure d'être confortable avec le playbook, confortable avec ce que j'ai à faire. Puis si j'ai une chance, bien, c'est sûr que je vais la prendre. Je vais essayer de maximiser ça, mais je m'en fais pas trop avec ça. Ça change rien que je sois partant ou que je sois sixième secondaire. Ça, pour moi, c'est la même préparation physique, mentale. Donc non, ça change pas grand-chose. J'essaie de pas trop penser justement à ça puis vraiment focus sur ce que j'ai à focus. Puis c'est sûr que Chris... J'imagine que ça me rapproche un petit peu du terrain, mais je ne veux pas trop y penser parce que ça ne change rien pour moi, vraiment, pour ma préparation.
Cette année, justement, c'est une première année. On entre toujours, surtout en tant que joueur canadien, par les unités spéciales. Est-ce que tu sens que tu as progressé comme joueur de football? Est-ce que tu sens que tu t'es rapproché du terrain?
Ouais, non, mais moi, je veux dire, juste, je regarde mon niveau de compréhension depuis le début du camp d'entraînement jusqu'à maintenant, puis c'est le jour et la nuit. Puis le fait d'avoir joué sous unité spéciale, ça me permet de physiquement de m'adapter à ce calibre-là. Puis être avec des gars comme Enoch, Nick, Aki quand il était ici, Glenn Love, puis le groupe d'entraîneurs qu'on a eu, ça m'a permis de comprendre ma compréhension encore mieux en défensive. Donc les unités spéciales m'ont aidé physiquement, puis pratiquer avec ces gars-là m'a aidé mentalement. Donc définitivement, j'ai eu beaucoup d'amélioration depuis le début de la saison. Donc je suis excité, là, ça me motive pour la suite.
Parlons-en du côté physique et des unités spéciales. Est-ce que tu t'es aperçu que le niveau était plus élevé, les gars plus forts que ce à quoi tu t'attendais, plus fort, plus rapide?
C'est sûr que je m'attendais à extrêmement rapide puis extrêmement fort. Donc, je dirais que ça a atteint mes attentes en termes de ce que je m'attendais. Ce que j'ai aimé, c'est que je sais maintenant sur quoi j'ai besoin de travailler pendant la saison morte. Puis je sais un peu sur... avant, je savais pas vraiment si okay, est-ce que je suis assez rapide, mais pas assez fort? Est-ce que je suis assez fort, mais pas assez rapide? Je savais pas trop quoi faire, donc je faisais un peu de tout. Mais là, je sais c'est quoi mes faiblesses, je sais sur quoi travailler pendant la saison morte. Donc non, je suis vraiment content de où je suis en ce moment.
On te souhaite une bonne fin de saison et on se revoit très bientôt.
Parfait, merci beaucoup.
Jean-Gabriel Poulin, un excellent jeune secondaire. C'était une machine à plaquer, ça, oui. À l'université. J'ai hâte de voir, quand il aura l'occasion de jouer, comment il va s'adapter.
Mais en fait, moi, je pense que ces gars-là, justement, sont intimidés un petit peu. Quand ils arrivent des rangs collégiaux, universitaires, ils arrivent ici, et même s'ils ont fait la pluie puis le beau temps à l'université, c'est que les gars étaient confortables dans le système de jeu qu'ils jouaient et aussi, ils se sentaient en confiance sur le terrain. C'est ce qui manque à un jeune qui arrive ici. Et oui, la barre est haute. En passant, Poulin, d'après moi, a lu le livre « Les 101 clichés à répondre au football ». Mais en même temps, il a raison. C'est que tu arrives ici, tu as un petit peu un manque de confiance. Tu as des hommes là, au bas, vraiment, là, avec du poil sur le menton. Là. Et là, ben, tu te sens un petit peu intimidé. Puis tu as l'impression que tu te retiens un petit peu. Il faut faire confiance, surtout un gars comme ça à défensive. Ça, je disais tantôt, à la défensive, il faut réagir avec notre instinct beaucoup plus qu'à l'attaque, selon moi. Mais il faut réagir et toujours être à 100 000 à l'heure. Et quand tu manques de confiance, ça te ralentit. La petite seconde qui te manque pour réagir à un jeu ou même de voir le pre-snap read, je sais pas exactement comment le traduire, mais le pre-snap read, la lecture d'avant
le jeu,
est très, très important aussi. Donc, il faut vraiment visionner des films, regarder les statistiques.
Et faire confiance une fois qu'il est sur le terrain.
Et te faire confiance. C'est, je dirais, là, certains j'allais dire une niaiserie, mais... non, mais certains vont dire que c'est 90% entre les deux oreilles, puis 30%. Tu comprends? La mathématique, exactement. La mathématique est là, mais il faut se faire confiance. Et juste d'avoir connu une saison, d'avoir embarqué sur le terrain et d'avoir vraiment réalisé à quelle vitesse ces hommes-là, de l'autre côté, performent ou exécutent, je pense que cet hiver, il va être capable de s'entraîner. Je l'entendais d'ailleurs en autobus. Il va être capable de s'entraîner en conséquence. Puis vraiment, au lieu de s'entraîner sans vraiment savoir où mettre le focus, ben là, il va être capable. C'est-tu la vitesse? C'est-tu la force? C'est-tu les mouvements latéraux? C'est quoi? Mais ce gars-là devrait, selon moi, se retrouver sur le terrain. Et j'espère qu'il va être sur le terrain avant de passer le cap des 3 à 4 ans. Parce qu'après ça, les gars sont étiquetés unité spéciale et c'est très difficile de revenir sur le terrain.
on en voit comme ça dans la Ligue, des joueurs canadiens qui se promènent d'une équipe à l'autre, mais qui ne jouent que sur les unités spéciales. Il y a des bons joueurs de football là-dedans. On va faire une pause. Au retour, on parlera de l'attaque des Alouettes en compagnie du coordonnateur à l'attaque, Carey Jones. Les Alouettes qui rendent visite aux Argonauts à Toronto. Vous écoutez le football des Alouettes au réseau Cogeco.
Au réseau Cogeco, de retour au football des Alouettes avec Jean Saint-Onge et Steve Charbonneau.
Les Alouettes rendent visite aux Argonauts à Toronto. Et là, ce que je vais vous dire, ça me fait un peu mal au cœur de vous le dire. Ce sont les deux pires attaques de la Ligue qui s'affrontent au cours des deux prochaines semaines. 22 points par match pour Toronto, 17 points par match pour les Alouettes. Ce sont aussi les pires défenses pour les points accordés. Toronto, la seule équipe de la Ligue qui accorde plus de 30 points par match, 31,6 pour être précis. Les Alouettes, un peu moins de 30 points. Est-ce que les Alouettes vont pouvoir en profiter? Là, plus de Patrick Lavoie, plus de Philippe Blake, ça veut dire que la protection de Johnny Manziel risque de souffrir. J'ai jasé tout ça avec Carey Jones, le coordonnateur à l'attaque des Alouettes. Lui, il ne l'a pas eu facile hein, cette année parce que son personnel, un quart différent à chaque semaine ou à peu près, une ligne à l'attaque différente à chaque semaine ou presque, en passant...
Il mérite son ciel. Là.
Et Johnny Manziel, ça va être un quatrième départ, ça c'est du jamais vu chez les Alouettes cette année. Mais avec Carey Jones, j'ai d'abord parlé du départ de Patrick Lavoie parce que les réservistes chez les Alouettes, il n'y en a pas de centre arrière, il n'y en avait pas d'autres, Patrick Lavoie. Comment on va fonctionner? On écoute Carey Jones.
Pat was very unique in our offense, and he was a guy who could do multiple things, and we asked him to do multiple things. And so when you lose a guy like that, then there is going to be a hole, but like you said, it's also an opportunity for some other guys to show maybe some of the skills that they have that haven't been shown yet. And it may not be one person who takes over Pat's job, but it might be two or three guys that fill in. Because like you say, he was a veteran. He was a guy who knows the game very well. And so he's definitely a loss for us. But our loss is some of these other guys' gains on the team.
Comme on dit souvent au football, c'est au suivant. C'est-à-dire qu'il y en a un qui se blesse, c'est une opportunité pour un autre joueur. Et dans le cas de Patrick Lavoie qui n'est plus là, c'est une opportunité pour plusieurs joueurs.
Oui, exactement. Mais moi ce que j'aime de ce qui se passe, c'est que c'est vraiment à savoir qui va finir au dernier rang. Les deux équipes jouent pour sauver l'honneur. C'est pas facile des deux côtés, mais tu... Honnêtement, c'est un match comme ici. L'équipe Toronto, c'est eux autres qui ont le moins de sacs dans la ligue. Je peux pas croire que notre ligne d'attaque peut pas protéger Manziel, puis que Manziel pourrait pas avoir un field day, comme ils disent en anglais.
Et j'ai demandé à Carey Jones ce à quoi il s'attendait d'ici la fin de la saison de son quart, Johnny Manziel.
Just growth. That's the biggest thing that I'm looking for is just growing and maturing as a CFL quarterback. It takes time, as we've seen throughout the league. There are a lot of peaks and valleys, even with veteran guys. And so to be a rookie in this league and to have to learn on the fly and go through a lot of changes around you, it's tough. But I think he's handled it well. He's done some good things. He's done some things that definitely need to be improved. But that's to be expected at this point. But it, like you said, it's nice to have the same guy in there for a number of games. I've never been in this situation where we've played six quarterbacks significant minutes in a season, so it's been very unique to say the least. But it is nice to have some consistency there, and he's been able to provide that.
What is the biggest thing that he has to improve?
I think it's just overall knowledge of the game. That's the main thing. When quarterbacks have been in the game long enough and see things, then they can predict what's going to happen and they can get the ball out of their hands sooner. And so that's the main thing that I'm looking for is him to be able to see the game, have it slow down for him a little bit so he can just relax and throw the ball more on time and trust what his eyes are seeing. Sometimes he may not trust it. And again, these are all natural progressions. These are natural things. These are things that a lot of quarterbacks are able to work out in their first few years. But he's on a crash course, and he and to his credit, he's doing really well. But it's just going to take some time, and we have to be a little patient with him.
Did he surprise you in any way?
He has surprised me because he is just he's a very smart football player, very knowledgeable guy. He knows the game really well, and he's making leaps and bounds. We've talked about his footwork, and he comes and he's ready to work on it, and he's trying to improve each and every day. So that's been the nice thing about coaching him, is that he is very coachable, and to have the big name, the Johnny Football, all of those things, he's not that guy in the locker room or in the meeting rooms. He's there to work, and he's there to learn, and he's a pretty humble guy. And so those are the things that I'm really impressed with him, and that's going to help him out in the future, because the biggest thing you don't want to do is break a quarterback early and have him in there when he's not all the way ready and gets kind of shaken up. And I don't think that's the case with Johnny.
Probablement, ce qui te fait le plus plaisir d'entendre, c'est la dernière réponse quand il dit « Oui, on peut le coacher. » Et malgré tout ce qui entoure Johnny Football, tout ça, dans le vestiaire, dans la salle de meeting, c'est pas ce genre de gars-là. C'est un gars qui est prêt à écouter et à apprendre.
Ben, c'est positif, puis mais jusqu'où? C'est un gars, Manziel, le 872 verges, 2 touchés, mais 6 interceptions.
4 moment... dans le premier match.
Exact. Oui, je suis d'accord. Mais là, c'est ça. À un moment donné, là, c'est bien beau... d'espérer que ce gars-là va devenir le Johnny Football qu'on voulait tant, mais il faut qu'il performe et il faut qu'il gagne en confiance. J'espère qu'aujourd'hui, il va avoir un bon match et qu'il va aller chercher sa première victoire, mais surtout, essayer que Montréal finisse pas dernier.
C'est ce qu'on verra dans 2 minutes, le botté d'envoi de ce match entre les Alouettes et les Argonauts en direct de Toronto. Vous écoutez le football des Alouettes au réseau Cogeco.